Première partie, chapitre 9. Enfin, elle lui demanda s'il consentirait à pardonner. Aussitôt qu'il eut compris que la rupture était évitée, il vit tous les inconvénients d'un rapprochement. D'ailleurs, il souffrait déjà moins et avait presque accepté une douleur dont il faudrait, dans quelques mois peut-être, retrouver à nouveau la morsure si sa liaison recommençait. Il n'hésita pas longtemps. Et peut-être n'hésita-t-il que parce qu'il était enfin certain de pouvoir reprendre sa maîtresse, de le pouvoir, donc, de le faire. Seulement, elle lui demandait, pour qu'elle retrouvât son calme, de ne pas revenir à Paris au 1er janvier. Or, il n'avait pas le courage d'aller à Paris sans la voir. D'autre part, elle avait consenti à voyager avec lui, mais pour cela il lui fallait un véritable congé que le capitaine de Borodino ne voulait pas lui accorder. « Cela m'ennuie à cause de notre visite chez ma tante qui se trouve à journée. Je retournerai sans doute à Paris à Pâques. » « Nous ne pourrons pas aller chez madame de Guermantes à ce moment-là, car je serai déjà à Balbec, mais ça ne fait absolument rien. »« À Balbec? Mais vous n'y étiez allé qu'au mois d'août. » »« Oui, mais cette année, à cause de ma santé, on doit m'y envoyer plus tôt. » Toute sa crainte était que je ne jugeasse mal sa maîtresse, après ce qu'il m'avait raconté. « Elle est violente seulement parce qu'elle est trop franche, trop entière dans ses sentiments. Mais c'est un être sublime. Tu ne peux pas t'imaginer les délicatesses de poésie qu'il y a chez elle. Elle va passer tous les ans le jour des morts à Bruges. C'est bien, n'est-ce pas? Si jamais tu la connais, tu verras, elle a une grandeur. » Et comme il était imbu d'un certain langage qu'on parlait autour de cette femme dans des milieux littéraires, « Elle a quelque chose de sidéral, et même de vatique. Tu comprends ce que je veux dire? Le poète qui était presque un prêtre. » Je cherchais pendant tout le dîner un prétexte qui permit à Saint-Loup de demander à sa tante de me recevoir sans attendre qu'il vînt à Paris. Or, ce prétexte me fut fourni par le désir que j'avais de revoir des tableaux d'Elstir, le grand peintre que Saint-Loup et moi nous avions connu à Balbec. Prétexte où il y avait d'ailleurs quelques vérités. Car si, dans mes visites à Elstir, j'avais demandé à sa peinture de me conduire à la compréhension et à l'amour de choses meilleures qu'elle-même, un dégel véritable, une authentique place de province, de vivantes femmes sur la plage, tout au plus lui eussé-je commandé le portrait des réalités que je n'avais pas su approfondir, comme un chemin d'aubépine, non pour qu'il me conservât leur beauté, mais me la découvrit. Maintenant, au contraire, c'était l'originalité, la séduction de ces peintures qui excitait mon désir. Et ce que je voulais surtout voir, c'était d'autres tableaux d'Elstir. Il me semblait d'ailleurs que ses moindres tableaux, à lui, étaient quelque chose d'autre que les chefs-d'œuvre de peintres, même plus grands. Son œuvre était comme un royaume clos, aux frontières infranchissables, à la matière sans seconde. Collectionnant avidement les rares revues où on avait publié des études sur lui, j'y avais appris que ce n'était que récemment qu'il avait commencé à peindre des paysages et des natures mortes, mais qu'il avait commencé par des tableaux mythologiques. J'avais vu les photographies de deux d'entre eux dans son atelier. Puis avait été longtemps impressionné par l'art japonais. Certaines des œuvres les plus caractéristiques de ces diverses manières se trouvaient en province. Telle maison des Andelys, où était un de ses plus beaux paysages, m'apparaissait aussi précieuse, me donnait un aussi vif désir du voyage qu'un village chartrain dans la pierre meulière duquel est enchâssé un glorieux vitrail. Et vers le possesseur de ce chef-d'œuvre, vers cet homme qui, au fond de sa maison grossière, sur la grand-rue, enfermé comme un astrologue, interrogeait un de ses miroirs du monde, qu'est un tableau d'Elstir et qu'il avait peut-être acheté plusieurs milliers de francs, je me sentais portée par cette sympathie qui unit jusqu'au cœur, jusqu'au caractère de ceux qui pensent de la même façon que nous sur un sujet capital. Or, trois œuvres importantes de mon peintre préféré étaient désignées dans l'une de ses revues comme appartenant à Madame de Guermantes. Ce fut donc en somme, sincèrement, que, le soir où Saint-Loup m'avait annoncé le voyage de son ami à Bruges, je pus, pendant le dîner, devant ses amis, lui jeter, comme à l'improviste, « Écoute, tu permets ?» Dernière conversation au sujet de la dame dont nous avons parlé. « Tu te rappelles, Elstir, le peintre que j'ai connu à Balbec ?»«
Mais voyons, naturellement !»
« Tu te rappelles mon admiration pour lui ?»«
Très bien, et la lettre que nous lui avions fait remettre. » »«
Eh bien, une des raisons, pas des plus importantes, une raison accessoire pour laquelle je désirerais connaître la dite dame, tu sais toujours bien laquelle ?»«
Mais oui, que de parenthèses !»«
C'est qu'elle a chez elle au moins un très beau tableau d'Elstir. » »«
Tiens, je ne savais pas. »
Elstir sera sans doute à Balbec à Pâques. Vous savez qu'il passe maintenant presque toute l'année sur cette côte. J'aurais beaucoup aimé avoir vu ce tableau avant mon départ. Je ne sais si vous êtes en termes assez intimes avec votre tante. Ne pourriez-vous, en me faisant assez habilement valoir à ses yeux pour qu'elle ne refuse pas, lui demander de me laisser aller voir le tableau sans vous, puisque vous ne serez pas là?
C'est entendu, je réponds pour elle. J'en fais mon affaire.
Robert, je vous aime.
Vous êtes gentil de m'aimer, mais vous le seriez aussi de me tutoyer, comme vous l'aviez promis, et comme tu avais commencé de le faire.
J'espère que ce n'est pas votre départ que vous complotez, me dit un des amis de Robert.
Vous savez, si Saint-Loup part en permission, cela ne doit rien changer, nous sommes là. Ce sera peut-être moins amusant pour vous, mais on se donnera tant de peine pour tâcher de vous faire oublier son absence. »
En effet, au moment où on croyait que l'ami de Robert irait seul à Bruges, on venait d'apprendre que le capitaine de Borodino, jusque-là d'un avis contraire, venait de faire accorder au sous-officier Saint-Loup une longue permission pour Bruges. Voici ce qui s'était passé. Le prince, très fier de son opulente chevelure, était un client assidu du plus grand coiffeur de la ville, autrefois garçon de l'ancien coiffeur de Napoléon III. Le capitaine de Borodino était au mieux avec le coiffeur, car il était, malgré ses façons majestueuses, simple avec les petites gens. Mais le coiffeur, chez qui le prince avait une note arriérée d'au moins 5 ans, et que les flacons de Portugal, d'eau des souverains, les fers, les rasoirs, les cuirs, enflaient non moins que les shampoings, les coupes de cheveux, etc., plaçait plus haut Saint-Loup, qui payait rubis sur l'ongle, avait plusieurs voitures et des chevaux de selle. Mis au courant de l'ennui de Saint-Loup de ne pouvoir partir avec sa maîtresse, il en parla chaudement au prince, ligoté d'un surplis blanc, dans le moment que le barbier lui tenait la tête renversée et menaçait sa gorge. Le récit de ces aventures galantes d'un jeune homme arracha au capitaine prince un sourire d'indulgence bonapartiste. Il est peu probable qu'il pensât à sa note impayée, mais la recommandation du coiffeur l'inclinait autant à la bonne humeur qu'à la mauvaise celle d'un duc. Il avait encore du savon plein le menton que la permission était promise, et elle fut signée le soir même. Quant au coiffeur, qui avait l'habitude de se vanter sans cesse, et, afin de le pouvoir, s'attribuait, avec une faculté de mensonge extraordinaire, des prestiges entièrement inventés, pour une fois qu'il rendit un service signalé à Saint-Loup, non seulement il n'en fit pas sonner le mérite, mais, comme si la vanité avait besoin de mentir, et, quand il n'y a pas lieu de le faire, cède la place à la modestie. n'en reparla jamais à Robert. Tous les amis de Robert me dirent qu'aussi longtemps que je resterais à Doncières, ou à quelque époque que j'y revinsse, s'ils n'étaient pas là, leurs voitures, leurs chevaux, leurs maisons, leurs heures de liberté seraient à moi. Et je sentais que c'était de grand cœur que ces jeunes gens mettaient leur luxe, leur jeunesse, leur vigueur au service de ma faiblesse. « Pourquoi, du reste ?» reprirent les amis de Saint-Loup après avoir insisté pour que je restasse. « Ne reviendriez-vous pas tous les ans ? Vous voyez bien que cette petite vie vous plaît, et même vous vous intéressez à tout ce qui se passe au régiment, comme un ancien. » Car je continuais à leur demander avidement de classer les différents officiers dont je savais les noms, selon l'admiration plus ou moins grande qu'ils leur semblaient mériter. Comme jadis, au collège, je faisais faire à mes camarades pour les acteurs du Théâtre français. Si, à la place d'un des généraux que j'entendais toujours citer en tête de tous les autres, un Galifet ou un Négrier, quelque ami de Saint-Loup disait « Mais Négrier est un officier général des plus médiocres », et jetait le nom nouveau, intact et savoureux de « Pau » ou de « Gesselin de Bourgogne », j'éprouvais la même surprise heureuse que jadis, quand les noms épuisés de Tiron ou de Fèvre se trouvaient refoulés par l'épanouissement soudain du nom inusité d'Amaury. Même supérieur à Négrier ? Mais en quoi ? Donnez-moi un exemple. Je voulais qu'il existât des différences profondes, jusqu'entre les officiers subalternes du régiment. Et j'espérais, dans la raison de ces différences, saisir l'essence de ce qu'était la supériorité militaire. L'un de ceux dont cela m'eut le plus intéressé d'entendre parler, parce que c'est lui que j'avais aperçu le plus souvent, était le prince Borodino. Mais ni Saint-Loup, ni ses amis, s'ils rendaient en lui justice au bel officier qui assurait à son escadron une tenue incomparable, n'aimaient l'homme. Sans parler de lui, évidemment, sur le même ton que de certains officiers sortis du rang et francs-maçons, qui ne fréquentaient pas les autres et gardaient à côté d'eux un aspect farouche d'adjudant, il ne semblait pas situer M. de Borodino au nombre des autres officiers nobles, desquels, à vrai dire, même à l'égard de Saint-Loup, il différait beaucoup par l'attitude. Eux, profitant de ce que Robert n'était que sous-officier, et qu'ainsi sa puissante famille pouvait être heureuse qu'il fût invité chez des chefs qu'elle eût dédaigné sans cela, ne perdaient pas une occasion de le recevoir à leur table quand s'y trouvait quelque gros bonnet capable d'être utile à un jeune maréchal des logis. Seul le capitaine de Borodino n'avait que des rapports de service, d'ailleurs excellents, avec Robert. C'est que le prince, dont le grand-père avait été fait maréchal et prince-duc par l'empereur, à la famille de qui il s'était ensuite allié par son mariage, puis dont le père avait épousé une cousine de Napoléon III et avait été deux fois ministre après le coup d'État, sentait que, malgré cela, il n'était pas grand-chose pour Saint-Loup et la société des Guermantes, lesquels, à leur tour, comme ils ne se plaçaient pas au même point de vue qu'eux, ne comptaient guère pour lui. Il se doutait que, pour Saint-Loup, il était, lui apparenté au Hohenzollern, non pas un vrai noble, mais le petit-fils d'un fermier. Mais, en revanche, considérait Saint-Loup comme le fils d'un homme dont le comté avait été confirmé par l'empereur. On appelait cela dans le faubourg Saint-Germain les comptes refaits, et avait sollicité de lui une préfecture, puis tel autre poste, placé bien bas sous les ordres de Son Altesse le Prince de Borodino, ministre d'État, à qui l'on écrivait Monseigneur, et qui était neveu de souverain. Plus que neveu, peut-être. La première princesse de Borodino passait pour avoir eu des bontés pour Napoléon Ier, qu'elle suivit à l'île d'Elbe, et la seconde pour Napoléon III. Et si, dans la face placide du capitaine, on retrouvait de Napoléon Ier, sinon les traits naturels du visage,
du moins la majesté étudiée du masque. L'officier avait surtout dans le regard mélancolique et bon, dans la moustache tombante, quelque chose qui faisait penser à Napoléon III. Et cela, d'une façon si frappante, qu'ayant demandé, après ce dent, à pouvoir rejoindre l'empereur, et ayant été éconduit par Bismarck, auprès de qui on l'avait mené, ce dernier, levant par hasard les yeux sur le jeune homme qui se disposait à s'éloigner, fut saisi soudain par cette ressemblance, et, se ravisant, le rappela et lui accorda l'autorisation, que, comme à tout le monde, il venait de lui refuser. Et si le prince de Borodino ne voulait pas faire d'avance à Saint-Loup ni aux autres membres de la société du faubourg Saint-Germain qu'il y avait dans le régiment, alors qu'il invitait beaucoup deux lieutenants roturiers qui étaient des hommes agréables, c'est que, les considérant tous du haut de sa grandeur impériale, il faisait, entre ses inférieurs, cette différence que les uns étaient des inférieurs qui se savaient l'être et avec qui il était charmé de frayer, étant, sous ses apparences de majesté, d'une humeur simple et joviale, et les autres, des inférieurs qui se croyaient supérieurs, ce qu'il n'admettait pas. Aussi, alors que tous les officiers du régiment faisaient fête à Saint-Loup, le prince de Borodino, à qui il avait été recommandé par le maréchal de X, se borna à être obligeant pour lui dans le service, où Saint-Loup était d'ailleurs exemplaire. Mais il ne le reçut jamais chez lui, sauf en une circonstance particulière où il fut en quelque sorte forcé de l'inviter. Et, comme elle se présentait pendant mon séjour, lui demanda de m'amener. Je pus facilement ce soir-là, en voyant Saint-Loup à la table de son capitaine, discerner jusque dans les manières et l'élégance de chacun d'eux la différence qu'il y avait entre les deux aristocraties, l'ancienne noblesse et celle de l'Empire. Issue d'une caste dont les défauts, même s'il les répudiait de toute son intelligence, avaient passé dans son sang, et qui, ayant cessé d'exercer une autorité réelle depuis au moins un siècle, ne voit plus dans l'amabilité protectrice qui fait partie de l'éducation qu'elle reçoit qu'un exercice comme l'équitation ou l'escrime, cultivé sans but sérieux, par divertissement, à l'encontre des bourgeois que cette noblesse méprise assez pour croire que sa familiarité les flatte et que son sans-gêne les honorerait. Saint-Loup prenait amicalement la main de n'importe quel bourgeois qu'on lui présentait et dont il n'avait peut-être pas entendu le nom, et en causant avec lui, sans cesser de croiser et de décroiser les jambes, se renversant en arrière, dans une attitude débraillée, le pied dans la main, l'appelait « mon cher ». Mais au contraire, d'une noblesse dont les titres gardaient encore leur signification, tout pourvu qu'il restait de riches majorats récompensant de glorieux services et rappelant le souvenir de hautes fonctions dans lesquelles on commande à beaucoup d'hommes et où l'on doit connaître les hommes, le prince de Borodino, sinon distinctement et dans sa conscience personnelle et claire, du moins en son corps, qui le révélait par ses attitudes et ses façons, considérait son rang comme une prérogative effective. À ces mêmes roturiers que Saint-Loup eut touchés à l'épaule et pris par le bras, il s'adressait avec une affabilité majestueuse, où une réserve pleine de grandeur tempérait la bonhomie souriante qui lui était naturelle, sur un ton empreint à la fois d'une bienveillance sincère et d'une hauteur voulue. Cela tenait sans doute à ce qu'il était moins éloigné des grandes ambassades et de la cour, où son père avait eu les plus hautes charges, et où les manières de Saint-Loup, le coude sur la table et le pied dans la main, eussent été mal reçues. Mais surtout, cela tenait à ce que cette bourgeoisie, il la méprisait moins, qu'elle était le grand réservoir où le premier empereur avait pris ses maréchaux, ses nobles, où le second avait trouvé un Fould, un Rouher. Sans doute, fils ou petit-fils d'empereur, et qui n'avait plus qu'à commander un escadron, les préoccupations de son père et de son grand-père ne pouvaient,
faute d'objet à quoi s'appliquer, survivre réellement dans la pensée de Monsieur de Borodino. Mais, comme l'esprit d'un artiste continue à modeler bien des années après qu'il ait éteint la statue qu'il sculpta, elles avaient pris corps en lui, s'y étaient matérialisées, incarnées. C'était elles que reflétait son visage. C'est avec, dans la voix, la vivacité du premier empereur qu'il adressait un reproche à un brigadier. Avec la mélancolie songeuse du second, qu'il exhalait la bouffée d'une cigarette. Quand il passait en civil dans les rues de Doncières, un certain éclat dans ses yeux, s'échappant de sous le chapeau melon, faisait reluire autour du capitaine un incognito souverain. On tremblait quand il entrait dans le bureau du maréchal des logis-chef, suivi de l'adjudant et du fourrier, comme de Berthier et de Masséna. Quand il choisissait l'étoffe d'un pantalon pour son escadron, il fixait sur le brigadier tailleur un regard capable de déjouer Talleyrand et tromper Alexandre. Et parfois, en train de passer une revue d'installage, il s'arrêtait, laissant rêver ses admirables yeux bleus, tortillait sa moustache, avait l'air d'édifier une Prusse et une Italie nouvelles. Mais aussitôt, redevenant de Napoléon III, Napoléon Ier, il faisait remarquer que le paquetage n'était pas astiqué et voulait goûter à l'ordinaire des hommes. Et chez lui, dans sa vie privée, c'était pour les femmes d'officiers bourgeois, à la condition qu'ils ne fussent pas francs-maçons, qu'il faisait servir non seulement une vaisselle de Sèvres bleu de roi, digne d'un ambassadeur, donnée à son père par Napoléon, et qui paraissait plus précieuse encore dans la maison provinciale qu'il habitait sur le Mail, comme ces porcelaines rares que les touristes admirent avec plus de plaisir dans l'armoire rustique d'un vieux manoir aménagé en ferme, achalandé et prospère. Mais encore d'autres présents de l'empereur. Ses nobles et charmantes manières, qui, elles aussi, eussent fait merveille dans quelques postes de représentation, et si, pour certains, ce n'était pas être voué pour toute sa vie au plus injuste des ostracismes que d'être né, des gestes familiers, la bonté, la grâce, et, enfermant sous un émail bleu de roi aussi, des images glorieuses, la relique mystérieuse, éclairée et survivante du regard. Et à propos des relations bourgeoises que le prince avait à Doncières, il convient de dire ceci. Le lieutenant-colonel jouait admirablement du piano. La femme du médecin-chef chantait comme si elle avait eu un premier prix au conservatoire. Ce dernier couple, de même que le lieutenant-colonel et sa femme, dînaient chaque semaine chez M. de Borodino. Ils étaient certes flattés, sachant que, quand le prince allait à Paris en permission, il dînait chez Madame de Pourtalès, chez les Murat, etc. Mais il se disait « C'est un simple capitaine, il est trop heureux que nous venions chez lui. C'est du reste un vrai ami pour nous. » Mais quand Monsieur de Borodino, qui faisait depuis longtemps des démarches pour se rapprocher de Paris, fut nommé à Beauvais, il fit son déménagement. Oublia aussi complètement les deux couples musiciens que le théâtre de Doncières et le petit restaurant d'où il faisait souvent venir son déjeuner. Et à leur grande indignation, ni le lieutenant-colonel, ni le médecin-chef, qui avait si souvent dîné chez lui, ne reçurent plus de toute leur vie de ses nouvelles. Un matin, Saint-Loup m'avoua qu'il avait écrit à ma grand-mère pour lui donner de mes nouvelles, et lui suggérer l'idée, puisqu'un service téléphonique fonctionnait entre Doncières et Paris, de causer avec moi. Bref, le même jour, elle devait me faire appeler à l'appareil, et il me conseilla d'être vers 4h15 à la poste. Le téléphone n'était pas encore à cette époque d'un usage aussi courant qu'aujourd'hui, et pourtant l'habitude met si peu de temps à dépouiller de leur mystère les forces sacrées, avec lesquels nous sommes en contact, que, n'ayant pas eu ma communication immédiatement, la seule pensée que j'eus, ce fut que c'était bien long, bien incommode. et presque l'intention d'adresser une plainte. Comme nous tous maintenant, je ne trouvais pas assez rapide à mon gré, dans ces brusques changements, l'admirable féerie à laquelle quelques instants suffisent pour qu'apparaisse près de nous, invisible mais présent, l'être à qui nous voulions parler, et qui, restant à sa table, dans la ville qu'il habite, pour ma grand-mère c'était Paris, sous un ciel différent du nôtre, par un temps qui n'est pas forcément le même, au milieu de circonstances et de préoccupations que nous ignorons et que cet être va nous dire, se trouve tout à coup transporté à des centaines de lieues, lui et toute l'ambiance où il reste plongé, près de notre oreille, au moment où notre caprice l'a ordonné. Et nous sommes comme le personnage du conte à qui une magicienne, sur le souhait qu'il en exprime, fait apparaître dans une clarté surnaturelle sa grand-mère ou sa fiancée, en train de feuilleter un livre, de verser des larmes, de cueillir des fleurs, tout près du spectateur et pourtant très loin, à l'endroit même où elle se trouve réellement. Nous n'avons, pour que ce miracle s'accomplisse, qu'à approcher nos lèvres de la planchette magique et à appeler. Quelquefois, un peu trop longtemps, je le veux bien. Les vierges vigilantes, dont nous entendons chaque jour la voix sans jamais connaître le visage, et qui sont nos anges gardiens dans les ténèbres vertigineuses dont elles surveillent jalousement les portes. Les toutes-puissantes, par qui les absents surgissent à notre côté, sans qu'il soit permis de les apercevoir. Les Danaïdes de l'invisible, qui sans cesse vident, remplissent, se transmettent les urnes des sons. Les ironiques furies, qui, au moment que nous murmurions une confidence à une amie, avec l'espoir que personne ne nous entendait, nous crient cruellement « J'écoute !» Les servantes, toujours irritées du mystère, les ombrageuses prêtresses de l'invisible, les demoiselles du téléphone. Et aussitôt que notre appel a retenti, dans la nuit pleine d'apparitions sur laquelle nos oreilles s'ouvrent seules, un bruit léger, un bruit abstrait, celui de la distance supprimée, et la voix de l'être cher s'adresse à nous. C'est lui, c'est sa voix qui nous parle, qui est là. Mais comme elle est loin! Que de fois je n'ai pu l'écouter sans angoisse, comme si, devant cette impossibilité de voir, avant de longues heures de voyage, celle dont la voix était si près de mon oreille, je sentais mieux ce qu'il y a de décevant dans l'apparence du rapprochement le plus doux, et à quelle distance nous pouvons être des personnes aimées au moment où il semble que nous n'aurions qu'à étendre la main pour les retenir. Présence réelle que cette voix si proche, dans la séparation effective, mais anticipation aussi d'une séparation éternelle. Bien souvent, écoutant de la sorte, sans voir celle qui me parlait de si loin, il m'a semblé que cette voix clamait des profondeurs d'où l'on ne remonte pas, et j'ai connu l'anxiété qui allait m'étreindre un jour quand une voix reviendrait ainsi, seule et ne tenant plus à un corps que je ne devais jamais revoir, murmurer à mon oreille des paroles que j'aurais voulu embrasser au passage sur des lèvres à jamais en poussière. Ce jour-là, hélas, à Doncières, le miracle n'eut pas lieu. Quand j'arrivais au bureau de poste, ma grand-mère m'avait déjà demandé. J'entrais dans la cabine, la ligne était grise, quelqu'un causait qui ne savait pas sans doute qu'il n'y avait personne pour lui répondre, car quand j'amenais à moi le récepteur, ce morceau de bois se mit à parler comme Polichinelle. Je le fis taire, ainsi qu'au guignol, en le remettant à sa place. Mais, comme Polichinelle, dès que je le ramenais près de moi, il recommençait son bavardage. Je finis en désespoir de cause, en raccrochant définitivement le récepteur, par étouffer les convulsions de ce tronçon sonore qui jacassa jusqu'à la dernière seconde. Et j'allai chercher l'employé, qui me dit d'attendre un instant. Puis je parlai, et après quelques instants de silence, tout d'un coup, j'entendis cette voix que je croyais à tort connaître si bien, car jusque-là, chaque fois que ma grand-mère avait causé avec moi, ce qu'elle me disait, je l'avais toujours suivi sur la partition ouverte de son visage, où les yeux tenaient beaucoup de place. Mais sa voix elle-même, je l'écoutais aujourd'hui pour la première fois. Et parce que cette voix m'apparaissait changée dans ses proportions dès l'instant qu'elle était un tout, et m'arrivait ainsi seule et sans l'accompagnement des traits de la figure, je découvris combien cette voix était douce. Peut-être d'ailleurs ne l'avait-elle jamais été à ce point, car ma grand-mère, me sentant loin et malheureux, croyait pouvoir s'abandonner à l'effusion d'une tendresse que, par principe d'éducatrice, elle contenait et cachait d'habitude. Elle était douce, mais aussi comme elle était triste. D'abord à cause de sa douceur même, presque décantée, plus que peu de voix humaines n'ont jamais dû l'être, de toute dureté, de tout élément de résistance aux autres, de tout égoïsme. Fragile à force de délicatesse, elle semblait à tout moment prête à se briser, à expirer, en un pur flot de larmes. Puis, l'ayant seule près de moi, vue sans le masque du visage, j'y remarquais, pour la première fois, les chagrins qu'il avait fêlés au cours de la vie. Était-ce d'ailleurs uniquement la voix qui, parce qu'elle était seule, me donnait cette impression nouvelle qui me déchirait? Non pas. Mais plutôt que cet isolement de la voix était comme un symbole, une évocation, un effet direct d'un autre isolement, celui de ma grand-mère pour la première fois séparée de moi. Les commandements ou défenses qu'elle m'adressait à tout moment dans l'ordinaire de la vie, l'ennui de l'obéissance ou la fièvre de la rébellion qui neutralisait la tendresse que j'avais pour elle, étaient supprimés en ce moment, et même pouvaient l'être pour l'avenir, puisque ma grand-mère n'exigeait plus de m'avoir près d'elle sous sa loi, était en train de me dire son espoir que je resterais tout à fait à Doncières, ou en tout cas que j'y prolongerais mon séjour le plus longtemps possible, ma santé et mon travail pouvant s'en bien trouver. Aussi, ce que j'avais sous cette petite cloche approchée de mon oreille, c'était, débarrassé des pressions opposées qui chaque jour lui avaient fait contrepoids, et dès lors, irrésistible, me soulevant tout entier, notre mutuelle tendresse. Ma grand-mère, en me disant de rester, me donna un besoin anxieux et fou de revenir. Cette liberté qu'elle me laissait désormais, et à laquelle je n'avais jamais entrevu qu'elle pût consentir, me parut tout d'un coup aussi triste que pourrait être ma liberté après sa mort, quand je l'aimerais encore et qu'elle aurait à jamais renoncé à moi. Je criais « Grand-mère, grand-mère !» et j'aurais voulu l'embrasser. Mais je n'avais près de moi que cette voix, fantôme aussi impalpable que celui qui reviendrait peut-être me visiter quand ma grand-mère serait morte. « Parle-moi !» Mais alors, il arriva que, me laissant plus seule encore, je cessais tout d'un coup de percevoir cette voix. Ma grand-mère ne m'entendait plus, elle n'était plus en communication avec moi. Nous avions cessé d'être en face l'un de l'autre, d'être l'un pour l'autre audible. Je continuais à l'interpeller en tâtonnant dans la nuit, sentant que des appels d'elle aussi devaient s'égarer. Je palpitais de la même angoisse que, bien loin dans le passé, j'avais éprouvé autrefois, un jour que, petit enfant, dans une foule, je l'avais perdue. Angoisse moins de ne pas la retrouver que de sentir qu'elle me cherchait, de sentir qu'elle se disait que je la cherchais. Angoisse assez semblable à celle que j'éprouvais le jour où on parle à ceux qui ne peuvent plus répondre et de qui on voudrait au moins tant faire entendre tout ce qu'on ne leur a pas dit et l'assurance qu'on ne souffre pas. Il me semblait que c'était déjà une ombre chérie que je venais de laisser se perdre parmi les ombres. Et, seul devant l'appareil, je continuais à répéter en vain « Grand-mère, grand-mère !» Comme Orphée, restée seule, répète le nom de la morte. Je me décidais à quitter la poste, à aller retrouver Robert à son restaurant pour lui dire que, allant peut-être recevoir une dépêche qui m'obligerait à revenir, je voudrais savoir à tout hasard l'horaire des trains. Et pourtant, avant de prendre cette résolution, j'aurais voulu une dernière fois invoquer les filles de la nuit, les messagères de la parole, les divinités sans visage. Mais les capricieuses gardiennes n'avaient plus voulu ouvrir les portes merveilleuses, ou sans doute elles ne le purent pas. Elles eurent beau invoquer inlassablement, selon leur coutume, le vénérable inventeur de l'imprimerie et le jeune prince amateur de peinture impressionniste et chauffeur, lequel était neveu du capitaine de Borodino, Gutenberg et Wagram laissèrent leurs supplications sans réponse, et je partis, sentant que l'invisible sollicité resterait sourde.